livre de Samuel. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre au chapitre 2. Mais je vais demander à Alexandre si tu veux venir lire ici au pupitre le début, le cantique de Anne, les versets 1 à 10, s'il te plaît. Donc on est dans, voilà, 2, 1, 10, tu veux annoncer. Ouais.
Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. » Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel, sous les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son nom. Elkena s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie.
Voilà, c'était le cantique de Anne, 1 Samuel, chapitre 2. Et il y a plusieurs cantiques comme ça dans la Bible. Il y a le cantique de Marie, la sœur de Moïse, dans l'Ancien Testament. Et il y a les psaumes, tout le livre des psaumes. Et puis, il y a le cantique de Marie, la mère de Jésus, dans les évangiles. Et ce qu'on remarque, ce sont des personnes qui ne sont pas des sacrificateurs ou des prophètes, qui chantent un cantique. Et ce cantique est prophétique, et ce cantique est inspiré, et il est mis dans la Bible. Et Anne n'était pas une grande femme de Dieu, une prophétesse, elle est simplement la mère du prophète Samuel, simplement si on peut dire, du prophète Samuel. Et pourtant, son cantique est écrit là pour nous dans la Bible. Et ça montre que c'était une femme de foi, et que Dieu honore la foi. Dieu écoute la prière tous ceux qui l'invoquent. Dieu ne fait pas de distinction, est-ce que tu es pasteur, ou prophète ou pas prophète. Dieu regarde la foi et l'amour qui lui sont donnés. Et ici, Anne remercie Dieu parce qu'elle était stérile, vous vous rappelez, on a vu ça dans le premier message. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est allée au temple et elle a dit à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. » Et elle a été exaucée. Mais nous avons vu aussi que c'est une période d'apostasie, une période de ténèbres spirituelles. Et nous allons le voir encore plus ici, dans le temple même qui se trouvait à Silo à cette époque-là, le sacrificateur et ses fils n'obéissaient pas à Dieu. Et dans ce moment de ténèbres, Dieu va amener une lumière. Samuel, mais aussi sa maman, là, qui fait cette prière magnifique. Je ne sais pas si vous avez pu apprécier ce qu'elle dit, mais on voit qu'elle reconnaît que Dieu est le plus grand, que Dieu est au-dessus de tout, et que même s'il y a de l'injustice dans nos vies, elle était stérile et l'autre femme de son mari avait des enfants et elle se moquait d'elle. Elle subissait des injustices et pourtant, Dieu a renversé la chose, il a exaucé. Elle dit, celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donc je pense qu'elle veut dire que moi j'étais stérile, Dieu m'a béni, mais L'autre femme, là, maintenant, j'espère qu'elle va être flétrie, qu'elle n'aura plus d'enfants. Ce n'est pas forcément l'attitude qu'on veut mettre en avant, mais c'est pour montrer qu'aux yeux de Dieu, il y a une justice à un certain moment. Et Dieu intervient souvent dans ce livre de Samuel. La main de Dieu est à l'œuvre pour juger, pour rétablir la droiture. Parfois, on se dit, mais est-ce que Dieu existe vraiment quand on voit toutes les corruptions, les guerres, les crimes, les abominations? Dans les informations, hein, on voit beaucoup de choses horribles, mais Dieu est à l'œuvre, il agit. Il n'est pas encore en train de régner, parce que quand il va régner, il va descendre lui-même. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel pour rétablir la justice. Il va juger le monde entier. Ça va être terrible, parce que il faut pas tomber entre les mains du Dieu vivant, hein. Mais en ce moment, Dieu n'est pas en train d'amener son règne. Quelque part, il laisse faire un certain nombre de choses parce qu'il est patient. Il permet le mal pour que les hommes aient l'occasion de se repentir, de changer de voie. Mais Dieu agit dans les vies, et notamment quand on se met à le prier. Et c'est un hymne à la prière. Anne était une femme d'Israël. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais un jour, elle a prié de tout cœur, elle a dit « Seigneur », et Dieu l'a exaucée, et ça a changé le cours d'Israël, parce que son fils a changé, hein, a influencé terriblement le peuple de Dieu. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer quand on prie. Il va se passer des choses étonnantes, et il faut avoir cette foi. Même dans les pires ténèbres, les pires difficultés, au fond de l'injustice, il faut prier, parce que Dieu, elle le dit bien, est au-dessus de tout, il est un rocher, et il n'y a pas de rocher autre que notre Dieu. C'est un beau verset. Après cela, dans le chapitre, il est question des fils du souverain sacrificateur. Ils s'appellent Ophni et Phiné. Donc, le souverain sacrificateur, c'était celui qui était responsable du temple où se trouvait la présence de Dieu. C'est lui qui recevait les croyants qui venait apporter des sacrifices. Et le rôle du souverain sacrificateur, c'était, avec ses fils, de préparer les bêtes. Donc c'était souvent un agneau ou un bœuf parfois, ou un petit oiseau, selon la richesse de la personne. Et on préparait la bête. Il fallait souvent vider les entrailles, enlever la peau. Et ça, c'était brûlé à part, les entrailles et la peau. Ensuite, la viande elle-même était découpée comme le ferait un boucher. Les premiers bouchers, c'était les sacrificateurs, en fait, hein. Ils avaient une technique de coupe, et cette viande était placée sur l'autel en offrande à Dieu. Mais il y a une partie de la viande qui était gardée pour manger. Une partie revenait à l'homme, à la personne qui l'avait apportée, et une autre partie allait au sacrificateur, parce que les sacrificateurs n'avaient aucun moyen de subsistance. Ils vivaient des offrandes des fidèles, hein, de la nourriture qui était apportée. Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de choses qui leur appartiennent, ils étaient consacrés à Dieu. Sauf que on va découvrir ce que faisaient les fils d'Élie au chapitre 2 de 1 Samuel et verset 12. Ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron ou la marmite, ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, il le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: Mais quand on aura brûlé la graisse, d'accord, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et si on saute au verset 22, Élie, c'est leur père, hein, le souverain sacrificateur, était très âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le sacrificateur, c'était l'intermédiaire entre Dieu et les gens. C'est lui qui devait accueillir non seulement leurs offrandes, mais qui devait leur parler de Dieu, qui devait leur parler pourquoi on faisait des offrandes. Ces offrandes, c'était pour les péchés. C'était pour que les péchés soient pardonnés. L'animal mourait à votre place. C'était ça le sens des offrandes. C'est pour ça qu'on donnait un animal. Et leur but, c'était d'enseigner et d'intercéder, de dire « Dieu a entendu, a reçu ton offrande et tu es pardonné de tes péchés et Dieu veut que tu marches droit. » Et voilà ce qu'enseigne la Torah, voilà ce qu'enseigne la Bible. Mais là, dans ce temple, il ne se passait pas du tout ces choses-là. Il se passait des choses honteuses. Non seulement ils piquaient dans la marmite, c'est-à-dire ce qui les intéressait, c'est se nourrir de viande et tout cela, mais en plus, ils couchaient avec des femmes. Probablement, ils les poussaient à coucher avec eux en disant « Moi, je suis sacrificateur. Si tu veux être pardonné, il faut que tu me rendes un petit service. » Et les femmes, à cette époque-là, n'avait pas une grande force pour se défendre et elle devait suivre et tomber dans ses péchés terribles. Qu'est-ce que ça nous apprend et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que Élie, le père, était un mauvais homme d'après vous? D'après ce qu'on a lu? Il était gentil. Il dit, c'est pas bien ce que vous faites. Donc il savait ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Élie, on l'a vu au début, il a quand même s'il croyait que Anne était saoule quand elle priait, il n'avait pas beaucoup de discernement. Hein, mais au moins, il a dit que tu es un fils. Il a béni sa famille et elle a eu un fils. Donc, Élie n'est pas entièrement mauvais. Comment ces deux fils sont comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, c'est une question importante parce que nous, on peut se poser la question. Pourquoi les parents peuvent être des gens très bien? Et les enfants peuvent vraiment mal tourner. Bien sûr, il y a une raison petite, c'est que chaque enfant a sa propre volonté et sa propre personnalité. Chacun décide de sa vie et peut faire des très mauvais choix, même s'il a reçu une bonne éducation. Mais quand même, la parole de Dieu dit « Élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, hein, et il ne s'en écartera pas. » Il y a quand même quelque chose à donner. Et qu'est-ce que Élie a raté là? Qu'est-ce qu'il a raté, Élie? Apparemment, pour lui, la religion, c'était quelque chose de mort. On découvre qu'Élie n'a jamais eu de révélation de Dieu. Samuel, qui est un petit enfant, va recevoir une révélation de Dieu dans le chapitre suivant. Élie, lui, n'a jamais eu de révélation de Dieu, alors que c'est un vieil homme. Autre chose, Élie... tense, hein, il dit, il n'est pas content avec ses fils. Mais je vais le relire avec un ton tel que je l'imagine, hein, le ton qu'il aurait pu employer pour ses fils. Pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Pourquoi je parle comme ça? C'est qu'il dit les choses justes, mais il ne fait rien. Il n'y a pas d'action. Ce qu'il aurait dû faire, c'est dire à ses fils, hors du temple, hors de Silo, vous n'avez rien à faire comme sacrificateur. Vous faites pécher le peuple, même je devrais vous amener aux autorités pour que vous soyez mis à mort. Hein, parce que c'était ça la condamnation quand on méprisait Dieu en tant que sacrificateur. Mais lui, tout ce qu'il a fait, c'est dire, oh, c'est pas bien. Et puis après, il s'en va. Et les fils ont continué de plus belle. Quand vous n'intervenez pas face au péché, vous finissez par être complice du péché. La Bible, le Nouveau Testament, dit qu'on doit dénoncer le mal, hein, les œuvres mauvaises, particulièrement dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Là, ce n'était pas l'Église, c'était le temple. Mais s'il y a du péché dans l'Église, s'il y a du péché chez les autorités ecclésiastiques, il faut le dénoncer et faire le nettoyage. Élie, il avait la religion, il faisait les bons gestes, il était le souverain sacrificateur, il avait les bonnes paroles, mais il n'y avait pas la vie spirituelle. Il n'y avait pas la vie de Dieu, il n'y avait pas la relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a transmis à ses fils ? Une religion morte. Il y a beaucoup de parents catholiques qui nous parlent et qui nous disent « Je ne comprends pas, mes enfants ne veulent plus rien savoir de Dieu. » Qu'est-ce qui se passe ? Ça existe chez les protestants et chez les évangéliques aussi, hein ? Chez les chrétiens en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une raison qui est chez nous, c'est que nous ne leur avons pas transmis une religion de vie. Nous leur avons transmis des préceptes, des dogmes. Fais pas ci, fais pas ça, il faut faire ci, il faut faire ça, les commandements, il faut aller à l'église ou à la messe, il faut se tenir bien, il faut que tu sois gentil, il faut pas faire de mal. Hein. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, ces paroles, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait la vie. Il faut être un modèle déjà soi-même. Et quand il y a le mal, il faut le dénoncer et le punir quand il faut. Et si c'est avec ses enfants, on ne doit pas toujours être en train de punir nos enfants, mais on doit les instruire dans la justice, les corriger, dit la Bible. Hein. Corriger, en français, malheureusement, ça a pris un mauvais sens. Hein. Quand on dit « je lui ai mis une correction », ça veut dire une rouste, hein, ça veut dire le frapper. La vraie correction, c'est de remettre sur le bon chemin, c'est ça, corriger. C'est redresser. Et les parents doivent redresser leurs enfants. Des fois, il faut les pousser un peu. Hein. Hop, c'est par là. Et c'est pareil dans l'Église. Si l'Église a une religion morte, si tout ce qu'on fait, on chante, on lit la Bible, il y a le pasteur qui parle au micro, et puis quand on s'en va, pouf, on a oublié. Ah, oh, c'était beau. Et puis on ne fait rien dans sa vie. On n'obéit pas à Dieu. Ça s'appelle de la religion morte. Et ça donne la mort. Il y avait ce prédicateur du 19e, M. Bounds, qui a écrit des livres sur la prière. Et il y allait très fort. Il disait, quand un prédicateur, un pasteur ne prie pas, il donne la mort. Parce que ses paroles vont être bibliques, hein, mais comme il n'y a pas la vie spirituelle qui vient de la prière, ces paroles vont tomber et vont être lettres mortes. Et il va donner la mort. Les gens qui vont l'écouter vont tout savoir. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu qui vous convainc, qui vous touche. Ça, c'est très important pour l'Église, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Pas juste des belles paroles, une belle Église, tout le monde est bien habillé, tout le monde a le sourire, tout le monde est propre. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. Et c'est ce qu'on apprend ici avec Élie et ses fils. Et puis, il y a le contraste avec Samuel. Verset 18, « Samuel faisait le service devant l'Éternel. Il était revêtu d'un éphod de lin. » Verset 26, « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Pourquoi Samuel était agréable à Dieu ? Parce qu'il faisait, il obéissait à Dieu. Il faisait le service, il était dans l'action, dans la vérité, et il aimait Dieu. Il était consacré à Dieu. Ce n'est pas évident, quand votre maman vous abandonne lorsque vous êtes sevré, je ne sais pas à quel âge, si c'était 3, 4 ans, hein, peut-être 5 ans, elle vous abandonne, on peut dire. Elle vous met au temple, elle dit « maintenant tu vas habiter là et moi je viendrai te voir une fois par an ». C'est dur, hein ? Et il aurait pu dire « mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de là, c'est rentrer chez moi, mener ma vie. Je ne veux pas être dans ce temple avec ce vieillard-là qui comprend rien et les deux fils qui sont méchants. » Non, Samuel, il a pris à cœur ce que Dieu lui avait donné. Dieu lui a donné cette vie-là, il a accepté cette vie et il a fait le service. Il était honnête, il était droit, il était obéissant. Pourtant, ce n'était qu'un enfant. Et nous aussi, peut-être que vous n'avez pas la vie que vous aviez rêvé. Je ne sais pas de quelle vie vous aviez rêvé. Ah, oh, j'aurais aimé être cosmonaute, j'aurais aimé être pompier, j'aurais aimé être... Voilà. Mais Dieu nous a donné une autre vie. Peut-être qu'on a eu un handicap qui nous a empêchés de réaliser. Peut-être qu'on a eu des problèmes, qu'on a fait des mauvais choix à certains moments. Voilà. Mais sachez que maintenant, vous devez avoir la vie que Dieu veut. Maintenant, ce n'est pas hier ou demain. Aujourd'hui, Dieu a un projet, un plan pour vous. Et vous, on doit être comme Samuel. On doit vivre pleinement, servir Dieu avec la vie qu'il nous donne. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque le péché continue dans le temple de Dieu. Dieu envoie un prophète, on voit ça au verset 27 du chapitre 2. Un homme de Dieu, qui n'est même pas nommé, vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. » Il parle de la tribu de Lévi. Les Lévites, c'était une des 12 tribus qui étaient au service de Dieu. Il n'y avait pas d'autres tribus qui avaient le droit, c'était seulement les Lévites, les descendants de Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et donc, pour être sacrificateur, il fallait être dans la tribu de Lévi. Et c'était de père en fils qu'on était sacrificateur. Voilà. Donc, j'ai choisi cette tribu parmi toutes les tribus pour être à mon service, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ça, c'est une question très forte. En fait, Élie protégeait ses fils. Il ne voulait pas les condamner, les punir, les mettre en règle. Il laissait faire le péché pour ne pas intervenir. Et finalement, aux yeux de Dieu, il méprisait Dieu au profit de ses fils. Élie, si on lui avait demandé, Élie, est-ce que tu méprises Dieu ? Il dit, oh non, je suis souverain sacrificateur, j'honore le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit, non, tu ne m'honores pas. Tu honores tes fils qui sont dans le péché plus que moi. Des fois, nous, on ne se rend pas compte. Élie était trop faible, trop peureux peut-être. Il a manqué de courage, hein. Il a laissé ses fils grandir sans intervenir et puis après c'était trop tard peut-être. Quoi qu'il en soit, il a mis Dieu de côté et il a honoré ses fils au-dessus, ce qui était une grave erreur et un péché. Et là, il ne parle pas des fils, c'est ça qu'il ne parle pas aux fils, il parle à Élie. Il dit verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive, et là c'est une prophétie, où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Donc dans le temple, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens pour consumer tes yeux et attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint, devant le Messie, devant le oint. Et donc, c'est le jugement de Dieu qui est annoncé à Élie. Si vous aviez quelqu'un qui venait dans votre vie, hein, un prophète, et qui commence à vous dire, voilà, tu as péché contre Dieu, tu as fait ça, ça et ça, maintenant je vais juger ta maison, je vais juger ta famille, je vais juger ta vie. Tu vas avoir des morts dans ta famille, tu vas avoir des malades, tu vas avoir des problèmes, des jugements de Dieu. Qu'est-ce que vous feriez? Personnellement, je tremblerais, parce que quand Dieu parle, on tremble, et je me dépêcherais de me repentir, de dire, Seigneur, tu as raison, j'ai fauté, j'ai péché, mais maintenant je me mets en règle avec toi parce que je crains ton jugement, je ne veux pas être condamné. Et qu'est-ce que Élie a fait d'après vous? Eh bien, Élie n'a pas du tout fait cela. Il n'a rien fait. Il a continué. Samuel a travaillé devant Élie et devant l'Éternel, bien sûr. Mais Élie n'a rien dit. Aucune réaction, aucun changement. Élie n'était pas un mauvais bougre, hein, mais il n'était pas bon non plus. Il n'était pas juste. Nous, on a l'idée de la justice. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est assez moral, qui se tient bien, qui est correct. Mais aux yeux de Dieu, la justice, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Alors peut-être qu'on dira, mais comment fait-on la volonté de Dieu? Ben, c'est un peu ce qu'on découvre dans le chapitre 3. On va commencer le chapitre 3 parce que c'est le moment de la révélation de Dieu à Samuel. Je lis chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, Élie, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Mais je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Et c'est vraiment un morceau de littérature antique, hein, extraordinaire, cette histoire. Vous imaginez le petit enfant qui est là dans le temple et il entend, il est réveillé par une voix, Samuel, Samuel. Il dit, tiens, c'est Élie qui a besoin. Alors il va courir. Et Élie, il dort profondément, il le réveille, tu m'as appelé. Élie, mais non, je. Voilà. Parce que Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Mais c'est touchant, cette idée qu'il y a la voix de Dieu qui nous appelle. Parce que Dieu veut nous parler. Il ne parle pas toujours d'une voix audible comme c'est le cas pour Samuel. C'est très rare que dans la Bible, Dieu parle d'une voix audible à quelqu'un. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. C'est toute la Bible. Eux, à l'époque, ils n'avaient que les cinq premiers livres, hein, ils avaient le Pentateuque. Nous, on a toute la Bible qui est la parole de Dieu. Et puis, il y a le Saint-Esprit et qui peut aussi parler à notre âme, hein. Dieu peut nous parler par son esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu dans votre conscience? Dieu vous parle, Dieu vous met à cœur quelque chose. Samuel était enfant quand c'est arrivé la première fois. Et pourquoi Dieu a parlé à Samuel et pas à Élie? Parce qu'Élie n'était pas digne. Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Et ça, c'est une grande vérité. Si on n'écoute pas Dieu, si on ne s'intéresse pas à la volonté de Dieu, Dieu ne nous parlera pas. Il y a plein de gens qui disent, mais moi je serai croyant si Dieu me parle, d'accord, je crois. Que Dieu vienne me parler, alors là je vais croire en lui. Mais vu ton attitude, mon ami, Dieu ne va pas beaucoup te parler parce que tu n'as pas l'air de montrer beaucoup d'intérêt. Quelqu'un qui veut vraiment écouter Dieu, il va prier, il va dire, Seigneur, qui que tu sois, je ne te connais pas, mais révèle-toi, moi je veux entendre ta voix. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait cette prière et qui ont été exaucés. Dieu s'est révélé à eux de diverses manières. Dieu se révèle à ceux qui écoutent sa voix. Et Dieu montre sa volonté à ceux qui la cherchent et qui veulent la faire. Je parle maintenant aux chrétiens. Si vous dites, je cherche la volonté de Dieu, mais je ne la trouve pas, d'où vient le problème? De Dieu ou de vous ? De nous. Eh oui, Dieu n'a jamais de problème, lui. Dieu veut nous montrer sa volonté. C'est nous qui avons un problème, soit qu'on est aveugle, soit qu'on est sourd. Pourquoi on ne comprend pas la volonté de Dieu ? Parce qu'on n'est pas prêt à y obéir. Et c'est là où ça, le bât blesse souvent. On est prêt à faire plein de choses, mais des choses selon notre volonté. Moi, je suis prêt à aller être missionnaire à Tahiti. Ah oui, parce que Tahiti, c'est beau. Ou à Hawaï, hein, pour les Américains. Missionnaire à Hawaï. Waouh, ça c'est super. Mais maintenant, si on te dit, tu vas aller missionnaire au Nigeria, là où il y a des attentats dans le nord, là. Dans le sud, c'est magnifique, c'est un très beau pays, mais le nord, c'est très dangereux. Mais ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté, quoi qu'il m'en coûte. Beaucoup de missionnaires, hein, sont partis dans un endroit qu'ils n'avaient pas choisi eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas eux qui ont dit, tiens, je vais être missionnaire. Non, c'est Dieu qui leur a dit, je t'appelle dans ce pays. Et ils sont allés avec des dangers, des problèmes, des difficultés, mais ils sont allés avec joie. Dieu nous appelle aussi parfois à vivre dans une ville stressante, une grande ville comme Paris. On préférait peut-être être dans la nature, dans la forêt. Oui, mais si c'est la volonté de Dieu que je sois là, je suis mieux ici que dans la forêt. Même s'il y a moins d'arbres ou si les arbres ont des maladies. Et ce qui compte, c'est d'obéir à Dieu. Et Samuel, il était comme ça. Il avait un cœur pur, un cœur droit. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Ça, c'est une prière à faire, hein, tout le temps. Savez-vous que Dieu veut vous parler ? Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il y a trop de croyants qui sont là en disant « Je crois en Dieu, mais pour le reste, je ne comprends rien du tout. » Non, la foi, c'est tu crois en Dieu et tu entends Dieu, tu le connais et sa parole t'explique les choses. Tu peux comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut. Bien sûr, on ne va pas tout comprendre de Dieu, il est infini, mais on peut déjà comprendre les choses. Et surtout, comment être sauvé ? Comment avoir la vie éternelle ? C'était bien d'entendre ce soir, hein, ces promesses de Dieu. C'est par la foi, par la repentance. Jésus-Christ a payé notre dette. Voilà, c'est ça que j'ai besoin de savoir pour démarrer ma vie avec Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des pèlerinages ou toutes sortes de gestes pour être sauvé. C'est la foi, de croire, de mettre sa confiance en Jésus-Christ qui me sauve, qui est le Sauveur. Écouter la voix de Dieu est quelque chose qui s'apprend et il a fallu que Samuel apprenne à écouter la voix de Dieu. Vous-même, si vous êtes chrétien, vous devez apprendre à écouter cette voix. Lorsque vous ouvrez la Bible, dire « Seigneur, parle-moi ». Lorsque vous priez, Seigneur, parle-moi. Lorsque vous allez à l'église, vous entendez un message, Seigneur, parle-moi. Parce que Dieu veut vous dire des choses. Il a plein de choses à nous dire même. Malheureusement, nous passons tellement à côté de ce que Dieu voudrait nous dire. Dieu s'est révélé à un enfant, ce n'est pas un hasard. Jésus a dit, si vous n'avez pas la foi comme un enfant, hein, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Il faut avoir cette pureté de cœur. Un jour, il y avait pour Pâques une petite classe biblique avec les petits-enfants et les petits-enfants devaient faire un objet qui symbolise la résurrection de Jésus parce que Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Ils devaient dessiner ou fabriquer un petit objet. Alors, chacun se met au travail et puis il y en a un qui apporte un papillon. Enfin, il a dessiné un papillon et il dit, voilà, le papillon, ben, il était avant une chenille et puis il était dans sa chrysalide. Bon, les enfants ne connaissent pas forcément ce mot, mais... Et puis, il est ressorti, un papillon, c'est la résurrection. C'est une belle image. Il y a aussi la fleur, elle est fermée, puis elle s'ouvre. Alors, les enfants ont plein d'idées magnifiques. Et puis, il y a un petit enfant un peu handicapé, un peu simple... qui vient avec un œuf, une coquille d'œuf. Alors, le moniteur, il dit, ah, c'est quoi alors ? Parce que Pâques, c'est les œufs, n'est-ce pas ? Mais en fait, Pâques, c'est pas les œufs, ça, c'est païen. Mais bon, il amène un œuf. Et puis, il regarde, il tape, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf ? Ah, il n'y a rien. Ah, Il est vide, oui, effectivement, il fait un petit trou, il voit, il n'y a plus rien dans l'œuf, il a vidé l'œuf par un petit trou. Ah, et alors, c'est ça, la résurrection, un œuf vide, mais oui, bien sûr. Alors le moniteur ne comprend pas, le moniteur qui était pourtant un adulte, quelqu'un qui connaissait la Bible et tout, mais pourquoi tu donnes un œuf vide? Mais parce que Jésus n'est plus dans la tombe, le tombeau est vide. Donc l'œuf est vide. Et pour l'enfant, c'était clair. L'œuf est vide, c'est pour ça qu'il faut un œuf vide. Et s'il y avait quelque chose dedans, c'est pas la résurrection. Et les enfants, des fois, ont une acuité. Ils voient les choses plus fort que nous. Nous, on se complique l'esprit pour rien. Hein. Alors, il faut garder ce cœur tendre. Et que le Seigneur nous donne, eh bien, de prendre les bonnes décisions, de ne pas être comme Élie et ses fils. Ah, ils avaient le titre d'homme de Dieu, hein, de sacrificateur. Ils avaient des fonctions élevées, mais ils étaient corrompus. Et ils ont été jugés par Dieu sévèrement, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ils méprisaient les offrandes et le peuple de Dieu. Et Samuel, ce petit enfant, a été béni. Il a entendu la voix de Dieu, il a eu une relation avec Dieu. Et on verra comment il va servir le Seigneur quand il sera adulte. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ou un faux chrétien, là, hein? C'était des faux croyants, hein? Il faut choisir le chemin, la vie ou la mort, l'enfer ou le ciel, Jésus-Christ ou soi-même, hein, le péché. Et ce choix nous appartient. Dieu ne peut pas faire le choix pour nous. Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvés. Mais c'est à nous maintenant de dire, Seigneur, je me repens, je reconnais mes fautes, je reconnais que je ne te connais pas, je reconnais que je ne sais pas reconnaître ta voix, je ne sais pas exactement ce que tu veux, je ne lis pas vraiment la Bible, je ne m'intéresse pas même, mais Seigneur, je ne veux pas être perdu pour l'éternité. Je veux avoir la vie éternelle, je veux avoir goûté à ce que Samuel a goûté. Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, veuille me pardonner par la grâce de Jésus-Christ. On va terminer par un mot de prière, après on finira le cantique.